Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi la revue de presse. Et après, vous pouvez également écouter la rubrique « L'histoire aujourd'hui ». Le programme suivant est la mise au point qui sera continuée avec le magazine culturel. Vous pouvez également écouter notre rubrique « L'Indonésie en couleur » qui sera suivie par les musiques. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi la revue de presse.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Pour faire face aux défis de sécurité maritime, LIPI encourage l'ASEAN à construire hotline. L'Institut indonésien des sciences ou LIPI développe des recherches sur la médecine antipaludique. L'Afrique et l'Asie centrale sont une alternative du ralentissement des marchés de la Chine et du Japon. Le ministère du Commerce est optimiste d'être capable de pénétrer le nouveau marché de l'IORA. L'Indonésie présentera 200 titres de livres au Salon du Livre de Londres. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. La région de la mer en Indonésie et en Asie du Sud-Est est une voie stratégique pour l'expédition et le commerce. Ces eaux possèdent un grand potentiel de ressources marines et des poissons. Cependant, on nécessite l'optimisation de la sécurité et du sauvetage pour ces eaux. La coopération maritime entre les pays de la région peut être la bonne solution afin d'éviter un potentiel pire. Jeudi 9 mars à Jakarta, Rifki Muna, l'experte en politique et en sécurité de l'Institut indonésien des sciences au LIPI, a déclaré que pour répondre aux défis de la sécurité, l'ASEAN joue un rôle important pour réduire des conflits et encourager la sécurité coopérative. Il a encouragé les efforts visant à créer une confiance et une compréhension mutuelle entre les pays par le biais de hotline entre le chef de l'État et l'institution de la sécurité maritime. Selon lui, le leader du pays dans la région pouvait utiliser hotline pour communiquer avec les pays partenaires de dialogue afin de réduire les risques liés aux questions plus larges. La relation internationale devient l'un des canaux dans une relation entre deux ou plusieurs pays quand il y a un problème. Hotline pourrait être construite et je ne sais pas à quel niveau il aidera à réduire les questions plus larges de la possibilité des risques s'il y a l'accident. Rifki Muna a également expliqué que la hotline peut faciliter la communication sans attendre un processus bureaucratique. Outre la hotline, LIPI évalue qu'il existe d'autres éléments pouvant servir de référence dans le cadre de la coopération maritime régionale, à savoir adopter des codes de conduite en mer, conformément à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer ou UNCLOS, et d'organiser une formation conjointe. Une autre chose importante qui peut être construite pour renforcer la coopération maritime régionale est de construire une maritime basée sur la connaissance du domaine ou la connaissance sur la dynamique qui se déroule en mer qui pourrait avoir l'impact sur la sécurité, le sauvetage, l'économie, etc. Le paludisme est devenu l'une des maladies dangereuses qui peuvent conduire à la mort pour les malades. Par conséquent, pour réduire le nombre de victimes et traiter les malades, l'Institut indonésien des sciences au Lipi développe la médecine antipaludique en 2017. Les recherches de médicaments contre le paludisme menées par Lipi impliquent les agences concernées afin d'obtenir des résultats optimaux, a déclaré une chercheuse de Lipi, Yeni Meliana, à la Voix de l'Indonésie récemment concernant la Journée mondiale de la femme en 2017 au siège de Lipi à Jakarta.
2017 itu saya mengerjakan tadi anti malaria dengan teknologi.
En 2017, je fais des recherches anti paludisme par nanotechnologie. Je développe aussi des biopesticides. Pour cette recherche, je considère quel est l'utilisateur. Pour antipaludique, j'impliquerai le ministère de la Santé. Et pour biopesticides, je vais impliquer le ministère de l'Agriculture ainsi que la société Indopharma afin d'être intégrée. Et le résultat s'est concentré. Yeni Meliana espère que ses recherches liées au développement de la médecine antipaludisme peuvent donner des avantages pour le monde de la santé en Indonésie, parce que l'Indonésie est toujours l'un des pays qui souffre de paludisme. À cause du ralentissement de la croissance économique dans la République populaire de Chine et la diminution du pouvoir d'achat de la société japonaise, l'Indonésie doit trouver d'autres marchés comme l'objectif des exportations. L'économiste de l'Institut de développement économique et des finances, ou INDEF, M. Bima Yudhistira, estime que les pays d'Afrique centrale et australe, ainsi que l'Asie centrale et occidentale, étaient un marché potentiel pour l'Indonésie, comme par exemple des produits de café en provenance d'Indonésie qui ont commencé à pénétrer le marché africain. Bima Yudhistira évalue que l'arrivée du roi d'Arabie Saoudite, la présence du sommet de l'IORA et la coopération avec Sri Lanka et l'Afrique du Sud devient le moment pour l'Indonésie de restaurer la performance commerciale qui a faible pendant les dernières années. De plus, la balance commerciale au début de 2017 a enregistré un excédent de 1,4 milliard dollars américains. Cependant, le ministre coordinateur des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, a évalué que le gouvernement a continué de faciliter les hommes d'affaires d'avoir la facilité d'exporter. En principe, le gouvernement fournit des facilités fiscales pour les entreprises, y compris l'exonération des taxes d'importation, de sorte que les exportateurs nationaux sont plus poussés de pénétrer le marché du Sri Lanka. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'agent chargé des statistiques de la distribution et des services de l'Agence centrale des statistiques, M. Sasmito Hadiwibowo, est optimiste que le ministère du Commerce est en mesure de pénétrer les nouveaux marchés dans la région de l'Association des États riverains de l'Océan Indien, ou l'IORA. Chaque pays qui est un membre de l'IORA est un marché potentiel pour l'Indonésie et plus de 70% du commerce mondial l'Océan Indien. Il a déclaré que jusqu'à présent, l'Indonésie oriente ses ventes de produits vers les Amériques, l'Asie du Nord, le Japon, la Chine et l'Europe, si bien que le potentiel de commerce de l'IORA n'a pas été exploité de manière optimale. Le potentiel commercial de l'Indonésie dans la région des pays de l'IORA n'augmentera pas directement les exportations, mais l'Indonésie doit d'abord introduire ses produits. Si bien que l'Indonésie peut commercialiser des produits de qualité supérieure tels que le café, le caoutchouc, l'électronique, le textile, le fruit sur le nouveau marché en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique. L'Indonésie présentera 200 titres de livres au Salon du Livre de Londres 2017. Coordinateur de l'exposition internationale du livre du Comité national du livre, Sari Mutia a affirmé que cette année était la troisième participation des éditeurs gérés par le comité des livres. Elle a souligné que pendant 3 jours de l'exposition, l'Indonésie présentera 200 titres de livres sélectionnés et donne un aperçu sur l'industrie de l'édition en Indonésie. Cependant, le chef du comité national des livres, Laura Prinsloo, affirmé que le salon du livre de Londres était une opportunité pour l'Indonésie de se montrer comme pays numérique avec des dizaines de millions d'utilisateurs Internet actifs, et l'Indonésie a participé avec succès dans la fabrication de l'animation et de jeux au niveau mondial. Selon elle, les avantages de la participation au Salon du Livre est en ligne avec le programme du gouvernement, entre autres intensifier la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de l'éducation et la culture, améliorer la productivité et la compétitivité sur le marché international. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Jérémy Ouassi Mohamed Soartono de la Voix de l'Indonésie, dans l'interview avec le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Marc Ayrault, qui a visité Jakarta récemment.
La Voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Quelle est la mission principale que vous êtes ici à l'Indonésie?
D'abord, je suis venu pour préparer la visite du président Hollande, du président de la République française, qui vient à Jakarta et en Indonésie le 29 mars prochain, dans le cadre d'une visite dans la région. Mais il a tenu à passer un moment à Jakarta, en Indonésie, qui est le pays le plus peuplé de la région de l'ASEAN, de l'Asie du Sud-Est. 250 millions d'habitants, le pays aussi le plus dynamique sur le plan économique, qui représente 40% de la richesse produite de cette région, et qui est aussi un pays qui est une référence, un pays musulman dans sa majorité, mais qui permet aussi à toutes les communautés de vivre ensemble, quelle que soit la religion, et qui montre un modèle de modération, de vivre ensemble, et qui est une référence dans la situation actuelle que nous connaissons.
Et quelle coopération que la France va établir avec l'Indonésie?
Renforcer nos relations sur le plan politique et stratégique, elles existent déjà. Et en particulier, faire le lien entre l'Union européenne et l'ASEAN. Et puis, nous avons sur le plan bilatéral énormément de projets en commun. D'abord, accueillir davantage d'étudiants. Et puis, renforcer nos liens sur le plan culturel, scientifique et économique, bien entendu. Nous avons beaucoup d'échanges déjà, mais nous pouvons faire beaucoup mieux. Je pense notamment à des domaines comme le développement durable. L'Indonésie est engagée pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable. Avec le ministre indonésien de l'énergie, nous avons salué ce matin la création d'un club d'entreprises françaises pour mettre des programmes de développement durable en œuvre, avec des projets très concrets pour l'accès à l'énergie, y compris des îles les plus isolées. Et puis, il y a aussi énormément d'échanges qui peuvent se faire dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du transport, que ce soit sur le plan civil ou sur le plan militaire.
Maintenant, c'est la question de radicalisme et du terrorisme, c'est plus populaire. Est-ce qu'il y a aussi la coopération avec l'Indonésie sur monter sur le radicalisme et la...
Oui, bien entendu. Nous sommes, j'ai fait allusion au fait que l'Indonésie est un pays à majorité musulmane, mais c'est la majorité musulmane pacifique, modérée, et qui n'a rien à voir avec l'extrémisme, mais dont il faut se méfier. Car l'extrémisme touche toutes nos sociétés et exploite à des fins politiques et idéologiques la religion musulmane. Et c'est vrai aussi en Europe, c'est vrai en France. Nous avons la plus grande communauté musulmane d'Europe et donc nous devons échanger nos bonnes pratiques de lutte contre la radicalisation. C'est très important pour l'équilibre de nos sociétés, mais aussi la sécurité de nos sociétés, parce que cette radicalisation encourage les tendances suicidaires et terroristes qu'il faut à tout prix prévenir.
C'est une question. À propos de la question du Moyen-Orient sur la Palestine, Paris est l'idée de ça.
Oui.
L'Indonésie, comme la majorité musulmane, est-ce qu'il y a à Paris demandé quelques idées de l'Indonésie pour surmonter ça?
Alors, nous avons parlé souvent avec ma collègue, la ministre des Affaires étrangères, de cette question. Il faut renforcer encore notre engagement pour permettre la création de l'État palestinien. C'est une promesse qui a été faite il y a longtemps. Deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Et pour l'instant, la Palestine n'a toujours pas d'État. Et donc c'est indispensable de ne pas oublier cet objectif. La France est engagée pour remettre à l'agenda international cette question. Et nous sommes heureux d'avoir le soutien déterminé de l'Indonésie, qui s'est toujours trouvé avec nous pour contribuer à faire avancer cette juste cause.
Quelle est votre impression sur Jakarta après ça?
Très bonne impression. Un pays, un grand pays, un pays conscient des défis qui sont les siens, mais un pays qui comprend qu'on ne peut pas avancer sans coopération internationale. Et c'est ce que je retiendrai, c'est-à-dire un pays qui est fier de son histoire, de ses valeurs, de ses convictions, mais en même temps qui est ouvert aux autres. Et je crois que c'est comme ça, France, Europe et Indonésie, Asie du Sud-Est, que nous pourrons réussir à proposer à la jeunesse un avenir meilleur.
Ok, merci beaucoup, monsieur.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Média Indonésia, le 7 mars, qui a écrit sur le pari de l'intégrité de KPU de Jakarta. Le succès des élections locales Pilkada n'est pas seulement vu des résultats, mais aussi du processus. Les élections au niveau du processus doivent être justes et équitables. Sinon, les élections entachées, quel que soit le résultat, quel que soit le vainqueur. L'honnêteté et la justice doivent appliquer à tous, soit les organisateurs, soit les participants, soit les électeurs. Mais l'honnêteté et l'équité de la mise en œuvre des élections sont réellement discutables. La mise en œuvre de la deuxième phase de la campagne électorale à Jakarta, qui se déroule du mardi 7 mars au 15 avril 2017, devient la discrétion de la commission électorale KPU, considérée comme injuste, parce que la discrétion était le résultat de l'interprétation subjective des règles de KPU, PKPU. Il y a d'autres qui interprètent différemment. Selon PKPU, si les élections ont lieu en deux tours, on va aiguiser la vision et la mission. KPU de Jakarta interprète qu'il y a la campagne pour aiguiser la vision et la mission. Certains experts politiques et observateurs électoraux interprètent qu'on ne doit organiser une campagne au second tour. KPU de Jakarta, comme organisateur des élections, avait décidé qu'il y a une campagne dans le deuxième tour. Toutes les parties espèrent que la campagne de second tour ait lieu dans une atmosphère calme, sans le bruit. Selon le journal Média Indonésia, au premier tour, l'élection de Jakarta était bruyante. Des cas ethniques, la religion, la race et l'intergroupe. Par conséquent, toutes les parties veulent que les participants ne font pas de bruit pendant la campagne jusqu'au jour du scrutin, le 19 avril. Ensuite, l'éditorial du journal Business Indonesia, le 7 mars, a écrit « Devenir le pivot du maritime mondial ». En marge de la visite du roi d'Arabie Saoudite, l'Indonésie a aussi souhaité la bienvenue aux chefs d'État qui ont participé au sommet de l'Association de l'Océan Indien RIM, IORA, soit l'Association des pays côtiers de l'Océan Indien, tenue le 5 à 7 mars 2017. IORA est une organisation intra-régionale de l'Océan Indien créée en mars 1997 à l'île Maurice. IORA se compose de 21 États et 7 pays partenaires. IORA est le pionnier et la seule organisation régionale dans l'océan Indien, la région qui joue un rôle stratégique dans l'économie mondiale, dans laquelle le commerce international de l'Asie vers l'Europe et vice-versa interconnecté. L'Indonésie est devenue le président d'IORA pour la période 2015-2017 sur le thème « Renforcer de la coopération maritime dans un océan Indien Pacifique stable ». Ce n'est pas une coïncidence que l'Indonésie amène l'idée de renforcer la coopération maritime. conformément à la vision et la mission du gouvernement du président Joko Widodo et Yusuf Kalla, dès le début, l'Indonésie sera le pivot du monde maritime. L'élection de l'Indonésie en tant que président d'IORA est la mise en œuvre de la vision et la mission. Pour la première fois, après 72 ans d'indépendance, l'Indonésie a seulement voulu avoir une planification spatiale marine nationale qui vise à prévenir les conflits sur l'espace marin en assurant une utilisation équitable de l'espace maritime, en optimisant l'utilisation des ressources marines et d'assurer la continuité des ressources. La politique maritime et marine nationale spatiale servent comme étape importante de l'Indonésie pour devenir l'axe maritime du monde. Au cours des deux dernières années, beaucoup de gens qui ont fait des stupéfiés par l'étape audacieuse de la ministre de la Marine et de Pêche, Susi Pujiastuti, qui a bombardé les navires étrangers voleurs de poissons. Corrélativement, le prestige de la marine d'Indonésie était de plus en plus parfumé, depuis était à l'avant-garde dans le maintien de la souveraineté des eaux nationales. Nous terminons avec l'éditorial du journal Sindo, le 9 mars, qui a écrit « 2519 villages sont encore sombres ». Le gouvernement a encore une grande tâche pour éclairer les villages dans toute l'Indonésie. Plusieurs 12 villages ne bénéficient pas de l'électricité au maximum. Parmi ceux-ci, autant que 2519 villages ne sont pas électricité. La majorité se trouve en Papouasie. Au nom de la justice et le développement équitable, maintenant le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, ESDM, fait la percée en distribuant des paquets de lames solaires à économie d'énergie en Papouasie. Le gouvernement prévoit également la possibilité pour le secteur privé à construire des mini-centrales électriques qui nécessitent par le village. La décision du gouvernement d'accélérer l'entrée du flux de l'électricité dans les zones rurales ne fait pas aucun doute. Le règlement du ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, numéro 38, année 2016, sur l'accélération d'électrification au village, ouvre les possibilités aux entités autres que l'entreprise publique d'électricité PLN pour amener la plante, la vente d'électricité directement au public. Alors, les entreprises appartenant à la région, BUMD, les coopératives et les parties privées ont maintenant la possibilité de faire de l'électricité de l'entreprise. Chers amis, c'était la revue de presse.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie et l'Australie explorent la coopération des transports ». Le ministre indonésien des Transports, M. Budi Karya Sumadi, a fait une rencontre avec le ministre du Développement des Communications et le gouvernement local, le sénateur Fiona Nas, dans le bureau du ministère des Transports à Jakarta le jeudi 9 mars 2017. Lors de la réunion, ils ont étudié la possibilité d'établir la coopération dans le domaine du transport, notamment le transport de l'air. Dans une conférence de presse conjointe, le ministre Budi Karya a déclaré qu'ils ont discuté spécifiquement l'aviation et le tourisme, tels que la connectivité de la ville de Jakarta, Bali, vers l'Australie. En outre, l'Australie propose deux sites intéressants à Brisbane pour être développés par l'Indonésie et ouvrir la route de vol entre l'Indonésie et l'île de Christmas. Le ministre Budi Karya a expliqué que l'Indonésie et l'Australie avaient un forum de rencontre dans le secteur des transports qui était régulièrement organisé pour discuter de la coopération dans les transports. Comme la poursuite de la coopération entre les deux pays, Les deux parties ont convenu de tenir le forum de transport l'Indonésie-l'Australie qui se tiendra à Bali du 5 au 7 avril 2017. Le forum vise à donner l'orientation politique de la coopération de transport entre l'Indonésie et l'Australie et discuter des mesures qui doivent être prises pour renforcer la coopération dans le secteur des transports terrestres, maritimes ou aériens. La réunion a également discuté de la connectivité entre l'Indonésie et l'Australie. Le ministre des Transports, M. Budi Karya, a offert aux navires de croisière de l'Australie d'ancrer à Lombok afin qu'elle puisse développer le secteur touristique outre à Labuan Bajo et Bali. Jusqu'à présent, deux compagnies aériennes indonésiennes telles que Garuda Indonesia et Air Asia possèdent le programme de vol de Jakarta et Denpasar à Sydney, Melbourne et Perth. Et la compagnie aérienne de l'Australie telles que Qantas, Jetstar, Airways et Virgin Australia opère également des vols de l'Australie à Denpasar. Dans une conférence de presse, le ministre Budi Karya a également publié des données de coopération entre les deux pays dans le domaine du chemin de fer, la formation et l'éducation. Dans le domaine du chemin de fer, on a signé le protocole d'accord entre le directeur général des chemins de fer de l'Indonésie et le chef de la direction de l'Association des chemins de fer australiens en 2012 sur les normes réglementaires qui sont utilisées dans la sécurité ferroviaire intégrée et le système de gestion de sécurité. Dans le domaine de la formation et l'éducation, le protocole d'accord entre l'Agence de développement des ressources humaines des transports et l'Institut royal de technologie de Melbourne en 2013 lié à l'éducation des tests de langue anglaise dans le domaine de l'aviation. Chers amis, c'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter le lac Moat en province Sulawesi Nord. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Sulawesi Nord a au moins trois beaux lacs, dont l'un est le lac Moat, qui est situé en région Bulaang Mongondo Est. Le lac Moat est un lac volcanique. Le lac est situé dans la réserve naturelle du mont Ambang et il se trouve à une altitude de 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour se rendre au lac Moat, vous pouvez commencer de la ville Kota Mubagu. De Manado, on va aller à Kota Mubagu par les transports publics. Le voyage de Manado à Kota Mubagu via la direction Trans-Sulawesi vers Gorontalo prend 3 à 4 heures de trajet. De la ville Kota Mubagu, on prend encore environ une heure de route pour se rendre au lac Moat. Parce que pour arriver au lac Moat, il n'y a pas encore de transport public, il faut que Manado vous loue un véhicule. Le frais de location pour un jour est 250 000 rupiah. L'atmosphère fraîche immédiatement salue quand les yeux fixés sur l'étendue de l'eau du lac Moat. Du côté de la route se trouve la beauté du lac. Il y a plusieurs façons de profiter de la beauté du lac Moat. La première consiste à profiter du lac Moat de la route sur le bord du lac. La deuxième est de profiter du lac Moat du belvédère situé dans l'ancien lieu touristique. Il y a quelques belvédères qui peuvent être utilisés par les visiteurs de se détendre tout en profitant de la beauté du lac Pointe. En outre, il y a aussi une jetée en bois. Sur cette jetée en bois, vous pouvez profiter de la beauté du lac à partir d'une courte distance. Les collines vertes marchant autour du lac Moite. La troisième voie est de profiter de la beauté du lac Moite dans le sommet de colline, non loin du lac. Du haut de la colline, vous pourrez voir le beau paysage du lac Moite semblé caché au milieu de collines verdoyantes. Le lac Moite, dans lequel il y a des petites îles, est encore éveillé, sa beauté fait le poisson sidat, soit le poisson sogili, qui comprend des animaux rares, choisissent de reproduire ici. À travers l'Indonésie, il y a seulement deux lacs qui ont ces poissons. Vous pouvez aussi pêcher dans ce lac tout en profitant de la beauté. Si vous trouvez des poissons sidat ou sogili, vous devez supprimer le dos parce que ces poissons sont rares et protégés. Pour les engins de pêche, vous pouvez louer à un prix de 5000 rupiahs. Quand il était l'après-midi, vous pouvez regarder le coucher de soleil magnifique sur le lac Moite. Par conséquent, n'oubliez pas d'apporter votre appareil de photo pour capturer de belles scènes contenues dans ce lac Moite. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Peu de temps après l'événement du mouvement de 30 septembre 1965, mieux connu par l'événement du G30S, la situation de sécurité dans la capitale Jakarta n'est pas toujours favorable. À cette fin, Sukarno, qui était alors le poste de président de l'Indonésie, a émis un mandat. Le mandat étant connu pour Super Semar ou le mandat de 11 mars. À cet égard, la rubrique de l'Indonésie en couleur cette fois est en ce qui concerne la mise en œuvre de souvenirs et de prières pour commémorer le 51e jour de Super Semar. Selon la version officielle, la décharge de Super Semar se produit lorsque le président a tenu une réunion de l'inauguration du cabinet Dwi Kora, amélioré ou mieux connu sous le nom Sang du Conseil des ministres, le 11 mars 1966 à Jakarta. En raison de la sécurité autour du Palais Merdeka à Jakarta, où l'inauguration du Conseil des ministres sans a été considérée comme étant moins favorable, puis l'inauguration du Conseil des cinq ministres était annulée et le président Sukarno a été transporté au palais de Bogor. Par conséquent, Super Semar était signé par le président Sukarno à Bogor. Afin de commémorer le 51e anniversaire de Super Semar, Mosquée At-Tin à Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Est tient zikir et bénédiction pour la nation le samedi 11 mars 2017. Selon un des administrateurs de Mosquée At-Tin, étant également organisateur, Karnali, un tel événement sera rempli par les ulémas célèbres, entre autres Arifin Ilham, Sheikh Azekaf, Abdullah Gymnastiar ou A'agim et Rizik Sihab. Cet événement est ouvert au public et a lieu après la prière Maghrib jusqu'à la fin. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour chers amis, la voix de l'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique pour l'édition samedi. Avec moi, Yubi Surianto qui va vous accompagner pendant 15 minutes. Vous pouvez écouter nos émissions par l'onde courte 900-200 kHz ou sur internet à l'adresse www.voi.co.id. Et nous vous invitons également à rejoindre la VOI sur Facebook, Voice of Indonesia, ou à nous suivre sur Twitter, @VoiIndonesia. Comme d'habitude, afin de terminer cette émission, nous allons vous présenter maintenant un groupe vocal de femmes s'appelle Gach. Gach est l'abréviation du membre de groupe Gamaliel Tapiheru, Audrey Tapiheru et Chantika Abigail. On écoute ses premières chansons intitulées Ingin Putus Saja ou en français Je voulais juste rupture. On écoute.
Terulang lagi kau sakiti aku yang telah percaya,
percaya.
Dan akhirnya kini hatiku tak ada sedikit pun rasa
yang tersisa. Daripada lama-lama ku jadi gila, baiknya cepat-cepat.
Cuma sehari
kembali.
Berkali kau janji mau berubah malah semakin parah.
Hey. Daripada lama-lama ku jadi gila, baiknya cepat-cepat berpisah.
Janganlah kau sang
toujours à l'écoute de la voix d'Indonésie diffusée à Jakarta. C'était une chanson du groupe vocal indonésien Gach ou G.A.C. intitulée Je voulais juste rupture. Cette chanson raconte quelqu'un qui voulait rupture de son couple car elle était blessée toujours. Cette chanson a marqué le début de Gach dans l'industrie de la musique indonésienne. La formation du groupe a été précédée par deux familles, Gamal et Audrey, qui a téléchargé son vidéoclip à YouTube. Un an après, Chantika, qui aime aussi de faire vidéoclips à YouTube, était intéressée de leur vidéo duo. Et enfin, Chantika a rejoint ce groupe. Après avoir rejoint, Gehate a produit un vidéo musique cover, Just Dance, popularisé par Lady Gaga. De façon inattendue, ils ont gagné l'attention du grand label pour produire un album, premier album intitulé Gamaliel Audrey Chantika en 2012 et Stronger en 2015. On écoute l'un des chansons de l'album Stronger intitulé Heureux. Bonne écoute. Vous êtes toujours à l'écoute de la voix d'Indonésie du Fouché Jakarta. C'était une chanson du groupe folk indonésien Gach, intitulée Heureux. Cette chanson est une demande pour reconnaissance pour tout ce qui arrive dans cette vie. Non seulement cela, Gach a aussi transmettre la message que nous sommes plus disposés à essayer de nouvelles choses et faire des choses avec un cœur heureux. Le single lui-même est le résultat de leur travail dur quand ils ont participé dans l'atelier de musique en Suède en mars 2014. Pendant 3 semaines, Gach a collaboré avec des musiciens suédois et anglais En septembre 2016, Kurtz a publié la chanson Never Leave You sur une relation longue distance. Bien que Nuance de l'amour ait une relation longue distance, Gatch a créé sa musique sur la chanson Never Leave You avec un tempo rapide. Actuellement, la présence de Gatch dans le monde de la musique indonésienne a porté une brise fraîche. Avec bonne harmonisation, la musique R&B d'aujourd'hui, avec l'insertion de rap de Gamal et la mélange des paroles en anglais et indonésien, est une combinaison très intéressante. Chers amis, avant nous terminons notre programme musical ce soir, on écoute Never Leave You et Cinta ou Amour. Bonne écoute et au revoir.
Memang kau tadi sisiku, memang kau jauh dariku. Namun selama kau di hatiku, nantikan selalu kehadiranmu. I believe that we can work it out. 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 Berbaring di dalam kamar tidurku, menantikan selalu kabar darimu. Melihat fotomu, yes it helps a little. Tak berarti ku tak rindu kau kelihatan.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
tanpamu.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Segenap cinta yang telah kau beri.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.